18h. Le journal de Marceline Michon.
Bonsoir. Des flashs à gogo à la douane de Lucelle. Plus de 90% des véhicules ont été pincés par le radar de la police cantonale jurassienne fin octobre. On vous raconte ces mésaventures dans un instant. Ralentissement économique et chômage en forte hausse. C'est le topo actuel dans le Jura. L'industrie horlogère est particulièrement touchée. Difficile de savoir combien de temps mettra l'embellie à arriver. Interdire les réseaux sociaux aux mineurs. L'Australie l'a fait, la Suisse romande réfléchit pour protéger ces jeunes. Les parlements cantonaux se pencheront sur une motion interpartie. Pluie et nuages au programme de la soirée et de la nuit. Demain, les averses seront nombreuses en matinée avant l'arrivée d'éclaircies l'après-midi. 10 degrés attendus en plaine, 7 à 1000 mètres. C'est un radar qui a fait mouche. Le 31 octobre dernier, la police cantonale jurassienne a posé au petit matin sa machine à Lucelle et on peut dire qu'elle n'a pas cessé de crépiter. Le récapitulatif mensuel transmis le mois dernier désigne le site avec une étoile rouge. Cela représente le taux d'infraction le plus élevé dans ces statistiques. Dans les faits, 90% des conducteurs ont dépassé la limitation de vitesse, Nancy Chapuis.
90,17% pour être précise. Ce radar a été installé le 31 octobre de 5h50 à 9h et ce sont 234 véhicules qui ont été contrôlés pendant cette tranche horaire. 211 dépassaient donc la vitesse autorisée. La machine était placée au poste de douane qui était désert ce matin-là. Et la vitesse maximale est de 20 km/h, comme partout en Suisse lorsque se dresse le panneau rond cerclé de rouge et noté Zoll douane. Une centaine de personnes ont reçu une amende d'ordre. Les autres, 109, ont été dénoncées à la justice pour avoir dépassé de plus de 15 km/h la vitesse autorisée. Et si c'est 25 de plus, le ministère public considère en général que c'est un délit qui est inscrit dans le casier judiciaire et qui est sanctionné par une peine pécuniaire. La police cantonale jurassienne, qui refuse de commenter la pose d'un radar, nous a encore informé que la vitesse maximale enregistrée ce matin-là était de 65 km/h.
L'industrie jurassienne continue de tourner au ralenti et ça se voit dans les chiffres du chômage qui sont en nette hausse sur le mois de novembre, plus 0,4 points pour s'établir à 4,7%. Ça représente 140 demandeurs d'emploi de plus sur un mois et les entreprises sont chaque mois plus nombreuses à demander l'autorisation de recourir à la réduction de l'horaire de travail. Ce ralentissement économique amorcé il y a un an et demi touche essentiellement l'industrie horlogère et ses sous-traitants et partenaires. Pour combien de temps encore? Gilles Coulry, chef de projet à l'observation et mesure du marché du travail au service de l'économie et de l'emploi, tente de répondre.
C'est difficile de savoir si ça s'inscrit vraiment dans la durée. Pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que les entreprises ont quelques soucis avec leur carnet de commandes pour le début de l'année. En tout cas, le premier trimestre, même voire le premier semestre 2025, sera certainement encore compliqué. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait suite aussi à une période, on va dire pratiquement de surchauffe, fin 2022-2023, où les entreprises avaient un carnet de commandes comme ils n'avaient jamais connu.
Et là, justement, on retrouve des chiffres du chômage que l'on n'avait plus connus depuis la fin de la période Covid. Ça veut dire quand même qu'on est dans un creux significatif, même si on n'est pas au pic des grandes crises qu'on a connues sur les dernières décennies.
Non, bien sûr. Avec 2196 demandeurs d'emploi inscrits à l'ORP, on est encore loin de la crise des subprimes de 2009-2010, où là, on avait frisé les 3000 demandeurs d'emploi pour le canton du Jura. Il y avait 800 demandeurs d'emploi au mois de février 2021, après la période Covid. Donc on n'en est encore pas, mais c'est clair qu'avec une augmentation de 140 demandeurs d'emploi par mois, comme il y a eu lieu dans le courant du mois de novembre, c'est pas impossible qu'on y arrive.
Au niveau suisse, les économistes de la banque Raiffeisen prévoient une légère embellie l'année prochaine. Le taux de chômage national n'a augmenté que de 0,1 point pour s'établir à 2,6%. Une nouvelle loi pour simplifier la promotion économique. Dans le Jura, le gouvernement a transmis aujourd'hui une loi sur la promotion au Parlement. Elle doit simplifier la législation en vigueur et ancrer les pratiques actuelles. La nouvelle loi définit la promotion économique comme une démarche qui intègre d'autres politiques de l'État, comme l'aménagement du territoire, la fiscalité, la formation ou encore l'environnement. Le nouveau complexe scolaire de Courandelin entre dans sa seconde phase. La commune a fait une demande de permis pour la construction d'un deuxième bâtiment, selon le journal officiel du jour. L'édifice de 2 étages accueillera l'école enfantine et l'unité d'accueil pour écoliers, ainsi qu'une cantine scolaire. La population avait accepté un crédit de 5 millions de francs l'année passée pour sa réalisation. Les travaux pourraient commencer en début d'année prochaine, d'après le maire de Courandelin, Joël Burkhalter. À Moutier, l'homme accusé d'avoir mis le feu à sa maison en août 2023 est reconnu coupable d'incendie intentionnel, tentative de contrainte, injure et menace. Le tribunal Jura Bernois-Sélande a rendu son verdict cet après-midi. L'homme écope d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes, ainsi que 10 jours amende à 90 francs et le versement de 1000 francs à son ex-épouse pour tort moral. L'homme devra suivre une thérapie aussi longtemps que nécessaire. Détail de ce verdict sur rfj.ch. L'association Les Petites Familles se réorganise. La maison de Grandval, qui accueille des enfants confrontés à des difficultés dans leur famille, a été la proie des flammes hier après-midi. L'incendie a été maîtrisé par la trentaine de membres des pompiers du Cornet et du centre de renfort de Moutier. Au lendemain de ce drame, Nathan Henny, directeur des Petites Familles de Grandval, donne des nouvelles des petits habitants.
Alors les enfants sont très chamboulés, hein, ça, il n'y a pas à dire. Pour eux, c'était leur lieu de vie, donc c'est partie de leur vie en tout cas, voire une grande partie de leur vie qui part en fumée. Et donc voilà, émotionnellement, c'est compliqué pour eux. Puis pour nous, ben, c'est vrai que voilà, c'est aussi un choc. On est triste de voir cette maison partir en fumée. C'est notre lieu de travail, on y partage beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi avec ses enfants. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est émotionnellement compliqué. Après, voilà, au niveau physique, tout le monde va bien, donc c'est ça qui est l'essentiel.
À quel moment vous avez remarqué que quelque chose clochait ?
Quand les enfants sont descendus de l'étage et ils nous ont dit qu'il y avait de la fumée en haut. Et on allait vérifier, puis effectivement il y en avait, donc on ne pouvait même plus aller vérifier jusqu'où les enfants étaient montés, donc c'était urgence tout de suite. Donc on les a tous sortis, et puis on est sortis les mettre en sécurité, nous aussi d'ailleurs.
Maintenant, le suivi pour les enfants, pour vous, des gens vous accompagnent pour essayer de faire au mieux face à ce drame dans vos vies en fait.
Ce qui est clair, c'est une priorité pour nous, hein, le bien-être des enfants, c'est notre mission, c'est notre raison de travailler, de raison d'être. Et du coup, effectivement, ben, notre première priorité, c'était de leur trouver un toit. Donc ça, c'est en très bonne marche. On a beaucoup de possibilités. Donc on a ce luxe dans le malheur de pouvoir choisir où est-ce qu'on veut aller. Vraiment, c'est un élan de solidarité. On est extrêmement reconnaissant de se sentir soutenu de la sorte.
Nathan Henny au micro de Séverine Boé. C'est une opération bien ancrée dans la tradition. Les pompiers des Franches-Montagnes se mobilisent en faveur du Téléthon. Dans le district, les quatre sections du service d'incendie et de secours donnent rendez-vous à la population demain et samedi pour contribuer à la lutte contre les maladies génétiques rares. Elles proposent 6 événements à Seignes-les-Gies, au Breleu, au Bois, au Noirmont, au Genevet et à Montfaucon. Le Téléthon vit cette année sa 37e édition et l'implication des pompiers reste nécessaire pour se présenter à la population. Selon l'inspecteur du district des Franches-Montagnes, pour les pompiers jurassiens, Sylvère Frézard.
Les gens, ils sont demandeurs de genre de manifestation. Ils sont demandeurs de venir nous voir et puis un petit peu voir finalement qu'est-ce que font les pompiers. C'est aussi un petit peu, ben voilà, pour nous, l'occasion de présenter notre matériel, d'organiser justement des démonstrations, ce genre de choses qui permettent dans la population de se rendre compte, parce que le métier de pompier, il a aujourd'hui évolué. Hein. Le pompier, c'est plus que du feu. On fait aussi beaucoup assistance secours routier, on fait l'assistance sanitaire, on fait du chimique, de l'événement naturel. Donc finalement, on a dû acquérir de nouvelles compétences. Et puis c'est aussi pour nous le moyen de montrer à monsieur et madame tout le monde que les pompiers, c'est un métier et puis que on peut leur présenter ce qu'on fait.
Est-ce que la manifestation attire toujours la population ?
On s'en rend compte justement que les gens sont demandeurs et puis viennent volontiers soutenir le Téléthon, font volontiers des dons. Il y a même des gens qui font des dons, on va dire, sans même nous visiter, parce que ça leur tient à cœur de faire ce geste. Et puis après, on a bien sûr toute la partie où c'est que les enfants viennent voir les camions, ils ont une fois accès au matériel, au véhicule dans l'année. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit plus et puis les gens se déplacent volontiers.
Sylvère Frézard répondait à Nicolas Meusy. Dans le Jura, de nombreux événements sont organisés en faveur du Téléthon, aussi dans la Vallée et en Ajoie. L'agenda complet est à retrouver sur rfj.ch. La décision était très attendue, mais il n'y a finalement pas eu de décision. Faute de temps, le Conseil des États n'a pas ouvert le dossier de la Poste et de l'annonce de la fermeture de 170 offices aujourd'hui. Une motion déjà acceptée par le Conseil national demande que la Poste renonce à toute fermeture d'office tant que le service universel n'aura pas été redéfini. La Commission des télécommunications du Conseil des États ne veut pas de cette motion. Seuls deux sénateurs romands, le Neuchâtelois Baptiste Turny et le jurassien Charles Juillard, la défendent. Charles Juillard explique quelles conséquences pourraient avoir le report du débat.
C'est le pouvoir discrétionnaire du président de faire l'ordre du jour et l'adapter en fonction de l'évolution des discussions. Cela dit, ça pose un vrai problème. Est-ce que le Conseil fédéral, en attendant, peut quand même modifier l'ordonnance ou pas ? En ayant discuté avec les responsables de l'OFCOM, apparemment, ils sont plutôt à dire on est obligé d'attendre. Donc ce qui est plutôt positif dans le cadre précis. Il y a aussi une proposition de renvoi en commission pour éventuellement trouver une formule nouvelle pour la motion. Je ne sais pas si on arrivera à remonter la pente parce que c'était assez clair que la commission n'en voulait pas.
Le dossier de la Poste reviendra sur la table du Conseil des États en mars prochain. 16 400 millions de francs entre 2025 et 2028 pour l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire. Après le National, le Conseil des États a donné aujourd'hui son feu vert à l'unanimité. Ces fonds sont mis à disposition par la Confédération pour rénover les infrastructures vieillissantes. Autre décision du Conseil des États, la police des transports devrait être autorisée à employer des tasers. Une motion de l'UDC Michael Buffat a passé la rampe contre l'avis des Verts et de quelques socialistes. Le parlementaire vaudois demande de permettre à la police des transports publics de pouvoir réagir de manière plus flexible aux nouvelles réalités du terrain. Protéger les mineurs face aux effets néfastes des réseaux sociaux. Le bureau de la commission interparlementaire de contrôle de la convention scolaire a déposé une motion intercantonale et interpartie dans les parlements cantonaux de Suisse romande. Actuellement, il n'existe pas de régulation de l'accès aux réseaux sociaux en Suisse. Le représentant jurassien explique ce qui a poussé la commission à déposer ce texte, Vincent Eichmann.
Depuis déjà plusieurs mois, nous sommes préoccupés par l'évolution de cette question du harcèlement en ligne des réseaux sociaux. Et en particulier l'effet sur la santé mentale de nos élèves. Et c'est ce qui nous a poussé, moi dans un premier temps, à proposer à mes collègues qui ont rapidement suivi avec l'idée d'une motion intercantonale pour lancer le débat, donner une impulsion d'abord dans les cantons puis ensuite au fédéral pour réguler ces réseaux sociaux.
Au niveau fédéral, justement, le Conseil fédéral préconise surtout la prévention. Mais selon vous, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus?
Oui, je ne veux pas parler politique de l'autruche, mais je veux dire, je peux comprendre, on fait déjà de la prévention, on a déjà journée dans les écoles sur la sensibilisation aux réseaux sociaux. Mais au secondaire 1, c'est déjà beaucoup trop tard, puisque maintenant, les élèves ont accès de plus en plus jeunes à un téléphone portable, donc aussi à ces réseaux sociaux qui sont ouverts, sans aucun contrôle de l'âge d'utilisateur.
La motion sera également débattue lors de la prochaine séance au Parlement jurassien.
Ce sera déposé à la prochaine séance, mais comme il y a un délai de 4 mois, ce sera plutôt au printemps prochain, donc elle sera traitée chez nous, dans les autres parlements, selon leur mode de fonctionnement et les délais. Mais d'ici le printemps prochain, on aura ce débat dans tous les cantons et probablement au niveau fédéral, ouais.
Vincent Eichmann répondait à Émilie Charmillot. Le monde aura les yeux tournés vers Paris. Samedi, la cathédrale Notre-Dame va rouvrir ses portes, 5 ans après l'incendie qui a partiellement détruit l'édifice religieux. La cérémonie officielle se déroulera en présence d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. Notre-Dame de Paris a été reconstruite et restaurée grâce à l'engagement de plus de 2000 ouvriers. Gérard Daucourt, d'origine jurassienne et évêque émérite de Nanterre, près de Paris, évoque un événement mondial et se réjouit de cette réouverture. Le président français Emmanuel Macron avait promis de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Gérard Daucourt constate que le pari est tenu.
Je pense que M. Macron nous a dit ça pour nous encourager, parce qu'on était un peu secoués par cette affaire. Et puis en même temps, il avait son point de vue à lui et il disait, si moi, président de la République, je peux faire en sorte que ce soit restauré, il y avait tout ça. Mais moi, j'avais aucun moyen, personnellement, d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Les résultats d'un incendie pareil, ça vaut combien de temps? Bon, j'imagine bien que ça devait être immense. Vous m'auriez dit 10 ans, j'aurais cru aussi, hein, mais je n'avais aucune idée, quoi. Mais dès le départ, tout le monde s'y est mis et je crois que, encore une fois, le président de la République avait peut-être quelques idées derrière la tête pour son compte personnel, mais en tout cas il a stimulé les travaux et il a surtout la générosité, puisque vraiment c'est du monde entier que des dons petits et grands sont arrivés.
Mobilisation effectivement du monde entier, de tous les ouvriers qui ont reconstruit cet édifice. Ça a permis aussi de montrer l'attachement que les Français avaient pour cette cathédrale qui est quand même pas tout à fait comme les autres dans le cœur des Français, qu'ils soient fidèles ou pas d'ailleurs.
Oui, mais enfin, je pense que là, c'est très difficile à évaluer exactement ce qui s'est passé et se passe actuellement avec cette réouverture dans le cœur des Français, parce que l'attachement est divers. On va peut-être commencer peut-être à l'extérieur de la France. Le monde entier est intéressé. C'est que le monde entier est intéressé par Paris. Alors Paris, c'est la Tour Eiffel et Notre-Dame. Voilà, c'est tout. Vous allez n'importe où, Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Après, je pense qu'il y a toute une série de degrés divers d'attachement à cette cathédrale. Je pense quand même pour Paris et pour la France, c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire. Il s'est passé tellement d'événements nationaux, mais ayant un retentissement mondial, que voilà, on est attaché à cette cathédrale. Ensuite de ça, il y a l'attachement sentimental d'un bon nombre de gens. Et puis il y a l'attachement, je dirais, artistique, architectural. C'est une beauté, c'est une splendeur d'une cathédrale avec ses différentes époques, etc. Et puis il y a l'attachement d'un certain nombre de croyants, si vous voulez. Je crois que ça, c'est important de rappeler ça. C'est des degrés divers, mais tout le monde a eu raison, voilà, pour s'attacher, se reconnaître et vivre l'événement.
Gérard Daucourt, évêque émérite de Paris, au micro de François Comte.
RFJ, il est 18h16.
Sport. Tony Rayala échappe à sa suspension. Le recours du HCBN a été accepté par la Ligue nationale de hockey sur glace, selon une annonce faite aujourd'hui. Initialement suspendu 2 matchs pour avoir touché un officiel lors d'une échauffourée contre Davos. L'attaquant finlandais du club ceylandais a été acquitté par la Ligue et pourra être aligné normalement dès ce soir à Lausanne. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Très bonne soirée.